sur Diva FM 101.8. Je suis Céline Lindot, avocate au barreau de Marseille, et j'exerce mon métier en France et en Italie. Chaque vendredi, à partir de 16h, rejoignez-nous pour une plongée dans le monde captivant de la justice. Je partagerai avec vous mes connaissances et mon expérience pour vous aider à mieux comprendre le monde juridique. Vous aurez également l'opportunité de poser vos questions sur les réseaux sociaux de Diva FM, ce qui me permettra de vous apporter mes conseils et de vous guider dans vos démarches. Aujourd'hui, pour cette première émission, je vais tout d'abord me présenter et vous faire découvrir le métier d'avocat.
Et oui, Céline, et merci. Bienvenue dans cette émission avec vous. Donc, Céline Lindot sur Diva FM, notre avocate référence sur la radio que vous aimez. Et oui, nous aurons cette opportunité, cette chance d'avoir tous ces précieux conseils. Céline, c'est vrai que chaque vendredi, vous allez nous accorder quelques minutes, quelques demi-heures, voire quelques heures, tout dépendra le sujet, pour nous guider et que ce monde juridique nous paraisse peut-être moins complexe grâce à vos expériences et vos connaissances. Alors Céline, afin que vous rentriez dans la famille Diva FM, pourriez-vous nous dire un petit peu qui vous êtes, Céline Lindot ? On a compris déjà dans l'introduction que vous avez la spécialité d'être aussi bien avocate en Italie qu'en France. Mais tout d'abord, qui est Céline Lindot et comment est-elle devenue avocate ? Qu'est-ce qui lui a donné envie pour faire ce métier ?
L'origine de ma vocation remonte à mon enfance, tout simplement, lors d'un stage en quatrième, comme quoi ça marche et c'est utile. J'ai fait un stage dans un cabinet d'avocats, c'était l'avocat de mon père à l'époque, qui gérait ses affaires et qui a bien voulu m'accueillir dans cette petite semaine de découverte et d'observation. Et semaine qui a marqué ma vie et qui a du coup contribué à cette volonté de devenir avocate. Voilà. Donc, ensuite, j'ai classiquement suivi mes études de droit. J'ai passé le concours d'avocat. Qu'est-ce qui m'a amené, par contre, à privilégier la voie des affaires franco-italiennes ? C'est tout simplement le fait d'avoir eu une première expérience professionnelle en Italie, à Milan, dans un cabinet franco-italien. Mmh. Et lorsque je suis revenue à Marseille pour poursuivre ma carrière, j'ai eu l'idée, le souhait et la volonté de me développer et de me spécialiser dans le traitement des affaires franco-italiennes. Ce qui fait que j'ai une clientèle de personnes, soit de Français qui ont des problématiques en Italie, soit inversement d'Italiens qui ont des problématiques à gérer en France.
Alors on comprend bien que vous exercez aussi bien sur le territoire français qu'italien et que vous savez, on va dire, très bien gérer toutes les affaires qui peuvent être menées ici en France. Mais c'est vrai, avec cette particularité et cette spécialité qui est non négligeable et qui fait aussi votre originalité. C'est vrai, Céline, que donc vous allez pouvoir nous attribuer tous vos conseils. Et avant tout cela, c'est vrai qu'on a envie de connaître un petit peu votre métier aussi, de savoir les différences qu'il y a parfois entre certaines fonctions dans la loi, dans la justice. Alors, dans la toute première question, voilà, on a compris du coup que c'est une passion qui vous est venue d'enfance. Le parcours a été long pour devenir avocate, Céline ?
Oui, le parcours est long pour devenir avocat, effectivement. On peut passer le concours après une maîtrise, c'est-à-dire après 4 années d'enseignement universitaire à la faculté de droit. Pour ma part, j'ai passé la maîtrise et j'ai effectué également un master 2 qui a été très utile car très diversifié et qui m'a permis de découvrir d'autres métiers que le métier d'avocat. J'ai même à un moment songé, pourquoi pas, à me lancer dans la magistrature, mais finalement, je suis revenue à mes premières amours. Donc oui, c'est long. L'enseignement au sein de l'école d'avocats est également assez long. C'est 18 mois d'école. On a 6 mois d'enseignement théorique, 6 mois de stage.
Et au total, combien, en fait, Céline, pour devenir avocat, vraiment, ça prend combien de temps ? Au total, comme un avocat comme vous, avec vos spécialités ?
Je dirais plus de 7 ans.
Ouais, plus de 7 ans. Oui, parce qu'en même temps, vous savez, Céline, s'il y a peut-être aujourd'hui des grands-parents, des parents, ou voire des futurs bacheliers qui nous écoutent, de savoir à peu près combien de temps mettons pour devenir avocat, et aussi, parfois, quel est le déclic qui nous donne envie. Vous, on a compris que c'est un stage qui vous a poussé à devenir avocat, mais en même temps, c'était quoi aussi la défense de l'innocent, de la veuve et de l'orphelin, comme on pourrait dire, ou pas du tout?
Alors oui, très certainement que c'est le fait d'avoir pu observer ce maître de stage pendant une seule semaine. Ça m'a donné des valeurs que j'essaie d'appliquer au quotidien d'ailleurs. Le fait de pouvoir aider une personne, de ne pas la juger, de pouvoir aussi lui expliquer parfois qu'elle a emprunté le mauvais chemin, ça l'aide, mine de rien. C'est vrai que quand on est avocat, parfois on est amené à dire à nos clients des choses qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Mais par contre, on est la seule oreille attentive qu'ils peuvent avoir dans un contexte où ils n'ont plus d'interlocuteur. Donc, ce côté confident, aidant, tout en trouvant bien sûr le bon équilibre dans la relation client-avocat, hein. C'est une relation qui est passionnante et on pourrait en écrire des livres, il y en a qui ont déjà été écrits. C'est une relation qui est très particulière, relation de confiance, qui fait que lorsque l'on porte la parole de son client en justice, on parle pour lui, mais on parle aussi pour soi, parce qu'on permet à un tribunal qui ne connaît pas cette personne de juger les faits qui l'amène devant le tribunal, mais aussi de juger cette personne-là, c'est-à-dire de recontextualiser et de ne pas juste juger un dossier.
Oui, voilà. Et en même temps, vous êtes presque la parole de cette personne-là, vous êtes son double, son intermédiaire, parce que en quelque sorte, c'est pas sa voix qui s'exprimera lors de ce tribunal, même si on peut témoigner, on est bien d'accord.
Oui.
Mais quelque part, c'est vous qui plaidez.
Tout à fait. Donc, les personnes, alors, surtout dans les procès au pénal, bien sûr, hein, les personnes ont toujours, lorsqu'elles sont mises en cause, la parole. D'ailleurs, on dit toujours que la défense a la parole en dernier. Donc oui, les personnes s'expriment. L'intérêt de l'avocat, de l'intervention de l'avocat aux côtés de la personne, c'est qu'elle va avoir un langage déjà plus maîtrisé, à savoir que notre discours est dépassionné, même si parfois on peut plaider très souvent avec passion, hein, ce qui d'ailleurs se ressent. Hein, lorsque l'avocat est investi pour la cause de son client, ça se ressent dans l'auditoire. Mais l'intérêt, c'est que l'on va arriver à porter une parole et à porter un message qui sera dépassionné et qui sera audible. Voilà, parce que la personne qui crie son innocence ou qui veut absolument convaincre la juridiction qu'on lui a fait du mal, elle va parler avec des mots, avec une émotion qui vont parfois
altérer un petit peu les propos, en fait.
Exactement. Et rendre son discours soit inaudible parce qu'on ne le comprend pas, soit
trop émotif,
trop agressif, trop... Voilà. Et le message, en fait, perd de sa teneur par la forme, en fait. Donc là, nous, on est là, notre premier rôle, c'est effectivement de porter la parole de nos clients.
Alors c'est vrai, Céline, avant qu'on aborde des sujets plus peut-être techniques, c'est vrai que souvent, et je pense que les auditeurs se feront voir à travers ce que je vais vous demander, mais c'est vrai qu'on se pose des fois la question et on se met à votre place de se dire... Comment on fait quand parfois il y a des avocats, je ne sais pas si c'est votre cas, mais où il y a des dossiers quand même qui sont très compliqués, quand ça peut toucher à des meurtres, quand ça peut toucher à des agressions sexuelles, des viols. C'est vrai que parfois on se dit, quand on doit défendre ces personnages, j'imagine qu'on y met du cœur. Mais quand on doit défendre en revanche les personnes qui sont potentiellement coupables, défendre un agresseur, défendre un violeur, défendre un meurtrier, on se dit, même si c'est votre travail, mais comment on fait pour séparer l'émotionnel et faire son travail? Vous y arrivez ou vous choisissez vos dossiers?
Alors c'est un impératif, hein, de séparer effectivement l'émotionnel et le travail, même si dans tous les cas on est toujours touché par des situations qui nous arrivent. Le but, c'est que l'on parvienne à maîtriser le sujet et à défendre les droits de notre client sans être nous-mêmes émus par sa propre cause ou par les conséquences des actes qui amène
Oui, mais en fait, Céline, si, vous voyez ce que je veux dire. Mettons, imaginez-vous deux secondes. J'imagine, vous êtes une maman. Vous avez une affaire sur un enfant. Il faut que vous défendiez un agresseur. Vous dites, mon Dieu, il a tort. C'est lui qui est coupable, c'est reconnu, c'est prouvé. La défense le met en avant. Voilà.
Alors,
comment on fait là pour dire moi, j'aurais du mal à défendre quelqu'un comme cela. Vous voyez, je veux dire. Là, je sais que vous, comme vous séparez l'émotionnel, vous êtes obligé de faire votre travail, mais à la limite, je me dirais, moi, je choisis mes dossiers. À la limite, je ne défends pas des personnes comme ça.
Alors, tout d'abord, il est vrai qu'on a la possibilité de choisir nos dossiers. En tout cas, à partir du moment où on en accepte un, il vaut mieux le garder. Parce que si on se dessaisit, bon, déjà, c'est un petit peu
compliqué. Ouais.
Voilà. Mais par contre, votre question touche à toute la complexité de notre métier. Nous ne sommes pas simplement là pour défendre corps et âme une cause perdue, à savoir qu'il n'y a pas de cause perdue. L'avocat est un auxiliaire de justice, ce qui signifie qu'il contribue à l'œuvre de justice. Et l'œuvre de justice, c'est quoi ? C'est d'assurer qu'une justice soit rendue dans le respect des droits des parties, des droits de la défense, des droits de la partie civile. Bon, là, on est beaucoup sur le pénal, mais c'est vrai que c'est ce qui parle le plus aux personnes. Donc, lorsque l'on a un dossier avec une personne qui va nous présenter les faits, déjà, on n'est pas à l'abri que la personne ne nous dise pas la vérité. Déjà, c'est la première difficulté de l'avocat. On peut effectivement, en lisant le dossier, s'apercevoir que bon, ben, y a quand même des éléments à charge dans le dossier et que notre cliente devrait peut-être changer son fusil d'épaule. Bon, donc notre premier conseil, parfois, c'est d'amener les gens à avouer.
Oui. Bon. Oui, comme vous êtes une forme de psychologue en quelque sorte.
Non, quand même pas. Non, et
parce
ça.
Parce que vous arrivez à déterminer. Bon, vous avez des éléments concrets, mais vous arrivez à déterminer malgré tout. Qu'il n'y a pas une vérité qui est dite, qui est mise sur la table.
Tout à fait.
Et il va falloir que vous ameniez la personne à le faire.
À ce niveau-là, effectivement, on fait preuve de psychologie, de pédagogie.
Et surtout, c'est vrai que c'est de pédagogie. C'est vrai.
Parce qu'il faut arriver à faire comprendre à une personne que sa position va l'amener dans le mauvais chemin.
Et oui. Hein.
Donc parfois, j'ai pu, moi, avoir des clients qui niaient, et puis jusqu'à ce que je leur dise, écoutez, regardez, il y a ça dans le dossier, ça et ça. Bon, d'accord, mais ne le dites pas à ma mère. Donc en fait, on a des situations où parfois la personne n'a pas peur d'être jugée par le tribunal, mais a peur de ce que ses proches vont penser.
Penser de lui. Ouais,
donc là, il faut effectivement qu'on arrive à faire comprendre au client qu'on est de son côté et que notre conseil, le but de notre conseil, c'est soit qu'il échappe à une condamnation ou parce que peut-être, effectivement, je veux dire, il n'a rien fait. Hein.
Il n'y a pas que des personnes coupables.
Voilà. Il y a des personnes, il y a quand même la présomption d'innocence qui reste un principe majeur de notre justice. Donc, il y a des personnes qui crient leur innocence et à juste titre jusqu'au bout. Donc, on est là pour démontrer à la juridiction qu'effectivement, il n'y a aucun élément à son encontre. Par contre, s'il y a effectivement des éléments à charge et qu'on va vers une condamnation, là, notre travail change. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour soutenir mordicus, mon client n'a rien fait. On est là pour expliquer, pour représenter. Pas pour justifier ou pour excuser des faits, mais tout simplement pour les rationaliser et pour amener la juridiction à rendre une décision qui sera aussi rationnelle et qui ne sera pas disproportionnée par rapport à la gravité des faits et par rapport à la personnalité de la du justiciable qui sera jugé. Voilà.
C'est vrai. Non, mais ça paraît fou. Moi, je trouve que c'est à la fois, je sais pas si on peut dire courageux, mais c'est parfois, je me dis, c'est compliqué quand parfois on a des meurtriers en série sur lesquels la culpabilité n'est plus à prouver, de devoir dire bon, mais écoutez, il faut qu'on arrive à prouver que la personne, elle est comme ci, comme ça, pour minimiser sa peine. C'est vrai que ça serait un petit peu humainement compliqué, mais on comprend aussi toute la complexité de votre métier et sur lesquels, vous disiez aussi, vous avez la possibilité, si peut-être, je pense, c'est trop émotionnel, alors là, peut-être de ne pas prendre, justement, ces dossiers qui seraient peut-être lourds de responsabilité.
Derrière chaque avocat, il y a un être humain qui a son vécu, qui a sa tolérance et qui a sa conscience professionnelle. Donc, si une personne, un avocat, ne se sent pas ni la force, ni la conviction de défendre une personne dès le début...
C'est mieux qu'elle refuse.
Voilà, il vaut mieux refuser dès le début. Mais encore une fois, toute personne a le droit d'être défendue et le but de l'avocat de la défense, c'est véritablement de s'assurer que la justice sera rendue dans le respect des droits de la défense.
Alors, je vais dire maître Céline Lando, parce que c'est quand même votre appellation, même si on a envie de vous familiariser avec Diva FM. Mais... est-ce que vous êtes en train de dire, je vais rebondir sur le dernier propos que vous avez, tout le monde a droit à être défendu, mais justement ce droit, maître Céline, je veux dire, est-ce qu'il est véritablement pour tous ? Parce qu'on sait qu'il y a des aides quand on n'a pas les moyens de faire appel à un avocat, parce que malgré tout, il y a des honoraires et qui sont normales. Il faut bien quand même que vous soyez aussi rémunéré. Mais vraiment... tout le monde aujourd'hui est défendable, même si on se fait aider par exemple par l'aide juridictionnelle. Tout le monde a droit à accès à un avocat, où on voit des personnes qui n'ont pas le choix et qui vont même se défendre par elles-mêmes.
Alors, tout le monde a le droit à un avocat. D'ailleurs, les barreaux organisent régulièrement des consultations gratuites au sein de l'ordre. Donc, si une personne appelle à l'ordre des avocats pour demander une consultation à titre gratuit, il y a ces sessions qui se tiennent mensuellement, me semble-t-il, au sein de chaque ordre. Donc, c'est une première étape. Il y a le système de l'aide juridictionnelle qui permet aux personnes qui n'ont pas
suffisamment de revenus,
exactement, de pouvoir donc déposer un dossier et lorsqu'ils sont admis au titre de l'aide juridictionnelle, on leur désigne un avocat qui va faire son office dans leurs intérêts et qui sera donc rémunéré
par l'aide juridictionnelle.
Par l'État, exactement. Donc ce sont des barèmes qui sont applicables.
Et il faut que ce soit des avocats qui souhaitent être rémunérés par ce système-là.
Alors, il y a deux possibilités. Il y a des avocats, effectivement, qui figurent sur des listes. Donc ce signifie qu'ils acceptent ce
Bien
type
sûr,
de rémunération. Et puis après, ça peut être aussi l'avocat de confiance habituel qui pratique ses honoraires avec sa clientèle et puis qui connaît un justiciable pour l'avoir déjà défendu et qui va accepter de défendre son dossier au titre de l'aide juridictionnelle.
D'accord, voilà. Donc c'est bien possible.
Oui.
Et en tout cas, on voit que voilà, c'est pas quelque chose qui est fermé parce que parfois on se dit il faut que je me fasse justice moi-même, pas dans ce sens-là, dans le justice moi-même, de dire je vais me défendre par moi-même, mais là en extérieur, mais de dire c'est moi qui vais me représenter parce que je n'ai pas les moyens de faire appel à un homme de loi.
Oui, non, ça, il y a effectivement des personnes qui veulent se défendre seules, mais je ne pense pas que ce soit le motif financier qui soit à l'origine de cette décision
personnelle, à la limite.
Oui. Et par contre, quelque chose de très intéressant pour rebondir là-dessus, beaucoup de personnes ignorent qu'elles bénéficient d'une protection juridique. Alors j'ai l'impression d'être en rendez-vous, parce que c'est ce que
mais
je
vous
dis.
Vous êtes en rendez-vous avec des milliers d'auditeurs, cher maître.
Et voilà, ben pensez-y, parce que parfois, donc, les personnes souscrivent une protection juridique et elles l'ignorent. Donc,
parfois, elles sont même dans les assurances de maison, par exemple,
voilà.
Ou une assurance tout à part, comme vous dites. Et là, souvent,
exactement.
C'est le secret.
C'est ça, on ne le sait pas, on cotise à l'année, et ça peut être l'assurance carte bleue, habitation, voiture, peu importe. Donc en fait, il suffit d'activer cette protection juridique, c'est-à-dire de demander à son assurance si... on en bénéficie. Et si tel est le cas, tout simplement demander à l'assurance de se mettre en contact avec l'avocat de son choix.
D'accord, on peut choisir.
Ah oui, j'insiste.
Non, aussi, il n'y a pas une liste qui serait référente pour l'assurance qu'on a contractée, par exemple. Non,
l'assurance peut travailler avec certains cabinets, mais le justiciable qui a son avocat de confiance peut tout à fait le choisir et demander à son assurance de prendre en charge une partie des honoraires. Donc ça, c'est très important, et donc il faut le savoir, et très important également, il faut l'activer avant de faire appel à l'avocat, avant qu'il y ait des diligences qui soient effectuées, parce que sinon, petite franchise et non. Ça ne sera pas pris en compte.
Ah, d'accord. Ça, voilà. C'est une bonne astuce, maître. Parce et que, oui. Oui, après, autant, on va dire, mais maître, Céline Endo sur Diva FM a dit ça. Mais alors, oui, mais il faut que ça soit dans le bon ordre. On a bien compris la chose. Alors, c'est vrai que, il y a d'autres professionnels de justice. Vous, vous êtes une avocate. Mais c'est quoi qui fait la différence, par exemple, entre vous, avocate, juge ou procureur? Par exemple, c'est quoi ces différents métiers?
Alors, donc l'avocat, c'est l'auxiliaire de justice qui va faire valoir les droits du justiciable, d'une personne qui estime qu'elle a été lésée ou qui prétend qu'elle a un droit et qui veut saisir la justice pour obtenir un jugement qui pourra être exécutoire, donc et qui va venir consacrer son droit. Bon, donc l'avocat est là pour activer la justice. Parfois, la justice s'active toute seule. Donc, transition toute trouvée sur le procureur de la République.
Il fait très bien les choses.
Bon, donc le procureur de la République, qui est-il? C'est vrai que ce personnage intrigue dans nos cabinets. Dans notre cabinet, souvent on nous demande, mais quel est son rôle? Alors, moi je le définis, je ne suis pas la seule hein, d'ailleurs, je pense que c'est dans tous les cours de droit qu'on a pu recevoir, on nous le présente comme l'avocat de la société. À savoir que l'avocat du justiciable est là pour régler les conflits entre les justiciables, donc entre des parties privées. Le procureur, lui, est là pour défendre l'ordre public. Donc lorsqu'il estime qu'il y a eu un trouble à l'ordre public, il peut activer des poursuites.
Ça pourrait être quoi comme exemple pour juste un petit peu, Céline, parce que ça paraît un peu compliqué quand on le dit comme ça. Mais oui. C'est quoi, par exemple, l'ordre public, ça serait quoi? Ça serait, par exemple, de déclencher une bagarre en extérieur?
Bagarre en extérieur. Et l'exemple type, ce sont les violences conjugales. L'ordre public est troublé lorsque une personne bat son conjoint. Ça, on le sait, parce que ça ne permet pas de faire société. Bon, parce qu'il y a une victime d'un côté et un auteur de l'autre. Et c'est là qu'on voit toute la différence entre les droits des parties, la partie civile, donc la victime, et l'attribution, on va dire, du procureur de la République. Une personne qui est battue va déposer une plainte, d'accord, au commissariat. Elle décide de retirer sa plainte pour des raisons diverses et variées. Eh bien, le procureur de la République, qui s'estime saisi ou qui a connaissance de cette plainte-là, peut poursuivre malgré le retrait de la plainte de la victime. C'est-à-dire que la victime ne fera pas valoir ses droits.
C'est souvent malheureusement le cas que parfois il y a des conjointes ou des épouses qui retirent leur plainte parce que, par peur de menaces ou de représailles. Mais le procureur, lui, peut poursuivre contre la personne qui a été accusée.
Tout à fait. Parce qu'au-delà de la victime, on estime que c'est la société aussi qui pâtit de ce type de comportements qui sont inacceptables.
On comprend là le rôle du procureur, du coup.
Voilà. Donc c'est lui qui requiert une peine et qui peut parfois requérir une relaxe. Relaxe, cela signifie
C'est pas forcément des peines dites de suite. Ça peut être une relaxe aussi par rapport au...
Oui, tout à fait. Donc,
J'aurais pensé que c'était que des peines, du coup, que le procureur demandait que des peines, pas de relaxe.
Eh bien non, parce que parfois arrivent sur le bureau du procureur des dossiers mal ficelés où il estime, en toute honnêteté intellectuelle, qu'il n'y a pas assez d'éléments pour condamner une personne. Et donc il peut requérir une relaxe. Alors quand on est avocat de la défense, parfois on préfère qu'il requiert une condamnation pour avoir du grain à moudre. Mais bon, je blague évidemment. Quand on a des réquisitions aux fins de relax, on est déjà, on a un pied, on va dire, dans la vérité judiciaire que l'on cherche à établir.
Et après on s'imagine, alors du coup, le grand Manitou, le juge.
Voilà.
C'est le chef de tout le monde en fait, quelque sorte.
Lui-même.
J'essaye de familiariser.
Oui. Bah, écoutez, alors le magistrat, alors parfois on a des juridictions à juge unique, donc le magistrat est seul, et parfois on a des juridictions collégiales où il y a plusieurs magistrats professionnels, et parfois on a même des juridictions paritaires où on a donc des magistrats professionnels et des personnes du monde civil. Bon, donc le magistrat est là pour entendre les faits tels que vécus par les personnes. par les parties, mm-hmm. donc les prétentions des uns, la défense des autres. Il fait un rappel à l'audience pénale. Hein. On est toujours sur l'audience pénale pour cette première émission. C'est vrai que c'est celle qui est la plus parlante. On va dire qu'il va donc faire un rappel des faits. Il va interroger le prévenu. Il va lui indiquer qu'il a le droit de répondre aux questions, de faire des déclarations, de se taire. Bon. Voilà, l'avocat l'aura
conseillé.
C'est
presque le chef d'orchestre, en quelque sorte.
Oui.
Hein, c'est, on s'imagine, à un moment donné, stop, c'est moi
tout à fait.
Qui interviens, s'il faut continuer la plaidoirie, pas la plaidoirie. Quand on voit aussi, vous savez, dans les films, Céline, voilà, vous imaginez bien, nous, on est tous là à travers les films. Objection, votre honneur. Est-ce que ça se passe vraiment comme ça? Ou on est complètement à côté?
Non, pas d'objection. Alors, ça, c'est...
Non, ça n'existe pas comme
alors,
ça.
Alors, pas en France.
On la joue pas l'américaine.
Non, la joue pas l'américaine. Celui qui la joue à l'américaine.
Vous êtes en train de nous enlever le rêve, là, franchement. Moi, je pensais qu'on était dans les plaidoiries avec, vous savez, tous les témoins, là, comme ça, où on est en train de plaidoyer pour l'accusé ou peu importe mm-hmm. la défense. Et après, objection, non, voilà, il n'y a pas à dire ça. Ça se passe pas du tout.
On peut s'emballer de temps en temps. Mais celui qui dit objection, à mon avis, on l'entendra plus pendant un petit moment. D'accord. Donc, ça, c'est effectivement donc, les fictions. Enfin, et c'est le système juridique américain, hein, donc c'est vrai qu'on est...
Mais on est tellement accablé de séries.
Voilà. Mais non. Alors en France, ça se passe autrement. Donc on a le président donc, qui tient l'audience, effectivement, mm-hmm. qui rythme les débats, qui pose des questions. Ensuite, vient la plaidoirie en premier donc, de l'avocat de la partie civile. Puis les réquisitions du procureur de la République et ensuite la plaidoirie de la défense.
À la fin, toujours.
Voilà. Effectivement, on peut, oui, poser des questions à la partie adverse.
Mais personne n'intervient dans les plaidoiries de chacun, en fait. Vous n'êtes pas, mettons, pendant que la partie civile est en train de poser le dossier pour la défense, etc., vous qui êtes là pour la défense, vous n'êtes pas du tout en train de dire
non,
on ne peut pas entendre ça.
Effectivement, en fait, il y a un grand principe dans la justice qui est le principe du contradictoire, qui fait que déjà, quand on arrive à l'audience, chaque partie doit être informée des éléments qui vont être soutenus par l'adversaire. Donc il n'y a pas de coup de théâtre, il n'y a pas de ha-ha.
Dernier témoin
voilà.
là, qui va arriver.
Quand même. Il est là.
D'accord. Ah ouais, on est vraiment très loin de la fiction, en fait. Ouais, ouais.
Voilà. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à ce sujet. Un jour, j'avais représenté un jeune homme un peu démuni qui ne savait plus quoi dire et qui, à un moment, regarde le juge et dit « C'est pas moi, j'ai rien fait. » Et l'avocat, il a la preuve. Et donc, tout le monde m'a regardé. Et donc, à part chercher dans les poches de ma robe, qu'il n'en a pas de toute façon, j'ai eu la répartie qu'il fallait à ce moment-là pour essayer de rebondir. Mais non, il n'y a pas de coup de théâtre, il n'y a pas de pièce à conviction sortie du chapeau.
D'accord.
Chacun est au courant de ce que l'autre partie va soulever. Et c'est ce qui permet d'ailleurs une justice sereine, posé
oui, et pas théâtral. Et pas théâtral.
Alors théâtral toujours un peu.
Oui.
Et ça fait partie quand même du jeu parce que même si on ne s'invective pas, il peut y avoir quand même des débats animés. Hein, c'est arrivé entre avocats et procureurs, avocats et magistrats. Bon, ça après c'est de l'humain. Hein, notre métier touche l'humain. Mais d'ordre général, le but c'est effectivement que ça se passe non pas de façon feutrée, de façon professionnelle.
Voilà. Bon. Après, j'ai envie de vous dire, il y a des têtes de turc, Maître Lendo, quand même. Par exemple, si vous voyez ce juge-là ou ce procureur, dire oh non, si j'ai celui-là, ça arrive, ça.
C'est
oui, une vraie tête. Ouais,
c'est
ça...
de l'humain, hein, comme et je oui. vous le disais. Donc...
Et oui, parce qu'il y a des ententes quand même entre vous ou pas du tout. Vous dites bon, celui-là, je le connais, c'est presque un collègue, il va plus m'entendre à moi. Non, ça,
non.
Ça, ça reste quand même impartial sur
oui,
ça.
Oui, et puis de toute façon, s'il devait y avoir, par exemple, une relation. Affective, ouais, notamment ouais. entre un magistrat et un avocat. Bon, il y aura un changement de magistrat.
D'accord. Ou d'avocat, oui, vraiment, c'est bien fait.
Non, effectivement, là, l'impartialité du juge, si elle est remise en cause, déjà c'est très rare, on saisit le sujet en amont et il n'y a pas de connivence. C'est sûr qu'on se connaît au bout d'un moment, mais c'est comme dans tous les métiers.
Ah ben, c'est pour ça que je vous disais la tête de turc, à la limite, si à un moment donné il y a un procureur ou un juge qui vous dit « Oh mon Dieu, lui il est tellement dur » ou quoi, des fois vous savez que ça risque d'être un peu plus compliqué.
Alors oui, effectivement, on connaît les défauts professionnels des uns, les qualités des autres, et puis parfois ben, ça rend quand même de bonnes décisions, hein, y a pas de...
C'est pas que dans le mauvais sens, d'accord.
Voilà, mais oui, en fait on s'adapte, tout simplement. On sait qu'il y a des magistrats qui n'aiment pas les longues plaidoiries, on sait qu'il y en a d'autres qui sont à l'écoute.
Oui, d'accord.
Oui,
Oui, donc vous vous adaptez en fonction de qui vous avez devant.
Oui. Tout à fait, tout d'accord, à fait. Et on sait qu'il y en a parfois qui piquent un peu du nez, si on parle un peu trop longtemps. Ben voilà, ça arrive, hein, ça arrive.
Ça s'endort pas quand même.
C'est arrivé, bon, oui, effectivement. Et ça, c'est...
On a les coulisses, en fait, des tribunaux.
Ça a pu arriver. Mais par contre, voilà, après, on connaît aussi les magistrats qui sont très méticuleux, qui sont très à l'écoute, qui vont laisser la parole aux justiciables. Ça, c'est très important parce qu'on est quand même dans une société où tout va vite.
Oui.
Il y a énormément de dossiers, hein, qui sont appelés dans une après-midi et le magistrat n'a pas la capacité, ne serait-ce que temporelle, que de mobiliser énergie, temps, attention à tous les dossiers.
Mais lorsque... Oui, parce que c'est vrai que des fois, il y a des dossiers qui s'enchaînent et s'enchaînent pour ces personnes-là, pour les juges, pour les procureurs. Exactement. Ça peut être combien de dossiers, Maître Lendo?
Alors, ce que j'ai vu, c'était dans le cadre d'une comparution immédiate. Donc ça, ce sont des audiences d'urgence. Et c'était pendant les vacations d'été, où on avait regroupé deux audiences sur une journée. Je crois qu'il y avait plus de 20 dossiers. Ça commence à 14h. Ça avait fini...
Ça peut paraître un peu pesant, quand même. Hein.
Oui, voilà. C'est vraiment harassant pour tous les professionnels. Le magistrat, les avocats...
Parce qu'on peut se dire, à la limite, la personne elle peut être plus tolérante en début de journée... Et beaucoup moins à la fin, non, du coup, quand il y a beaucoup de plaidoiries à faire comme ça.
C'est vrai que quand on est avocat, on préfère être bien placé sur ce qu'on appelle le rôle. C'est donc la liste, l'ordre de passage des dossiers. Et on sent qu'on a plus de marge, bien sûr.
Et oui, bien parce sûr. Que si on est en fin de journée, oui, ça on risquerait d'être un petit peu plus, on va dire, désavantagé, ça c'est certain. Alors, on va pas tout rentrer dans le détail technique, mais c'est vrai que on n'a pas conscience, nous, de comment ça se passe, en fait. Par exemple, je m'attaque à mon voisin, il m'embête, il a une branche au-dessus de mon jardin, on va commencer normalement à l'amiable, après il va y avoir des médiateurs, mais ça arrive pas, on n'arrive pas à s'entendre, je vais faire appel à vous, maître. Voilà, j'en ai marre, lui, sa branche, elle est chez moi. Donc, comment ça va se passer, il va falloir des rencontres, après il y a un tribunal qui va s'y mettre, c'est comment ça se passe, parce qu'on entend de tout, maître, on est un petit peu des fois déconcerté parce qu'on entend on fait appel, après on peut passer en cassation, il y a tellement de choses, c'est compliqué. Est-ce que vous arrivez à nous faire un petit peu une structure de la chose pour qu'on arrive un petit peu à comprendre?
Oui, alors on va faire l'avis d'un dossier, en gros. Donc effectivement, une personne qui a un souci avec son voisin vient me voir. Bon, déjà, la première chose, c'est de faire un rendez-vous pour que je connaisse cette personne, qu'elle m'explique le contexte de ce litige, la naissance du litige. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose aussi que la branche qui dépasse? Bon, voilà, parce que parfois, c'est un petit peu plus complexe
que ça. Hein, j'ai simplifié, j'ai presque infantilisé la chose.
mais c'est souvent comme ça qu'on nous le présente aussi au tout début. Moi, j'ai mon problème, c'est ça. Et quand on creuse un peu, il y en a plusieurs.
Oui, il y a plusieurs
problèmes. Donc, on déblaye les faits. Ensuite, notre premier travail, c'est de faire une consultation, à savoir lui expliquer quels sont ses droits et quels sont les risques à aller en justice. Bon, parce qu'il y a des justiciables qui font de leur procédure une question de principe et qui veulent aller jusqu'au bout, quelle que soit la répercussion financière, temporelle, et surtout en termes de charge mentale, parce que c'est une notion en vogue, mais bon.
Oui.
Ça définit bien ce que ressent le justiciable qui va en justice. C'est
bien
quand
sûr.
Même un combat qu'il délègue à son
avocat.
C'est
pesant, psychologiquement, c'est pesant, vous avez
voilà.
raison.
On ne tourne pas la page, il y a des procès au prud'homme qui durent pendant des années, et entre-temps, les justiciables ont changé d'emploi 2-3 fois. Mais bon, mais ils ont toujours cette petite abeille, là, qui leur tourne autour, et bon, la charge mentale du dossier. Bon, donc une fois que ma consultation est délivrée, que je dis à la personne, voilà, bah, vous pouvez y aller, attention. Attention à titre reconventionnel, ce qu'on peut vous opposer. Pium, pium, pium. Voici vos risques. La personne
oui,
prend.
Vous faites presque, excusez-moi de vous interrompre, mais de dire le prorata entre ce que vous risquez de perdre ou de gagner en faisant la démarche jusqu'au bout. Vous êtes
c'est
là à dire vous avez tant de pourcents de chance d'aboutir en quoi en positif en
exactement.
Fait. C'est exactement ça.
Alors le pourcentage, c'est la question piège parce qu'effectivement, souvent on me dit combien de.
Oui, de
quelles sont mes chances
oui.
Alors, bon, moi, j'étais pas forte en maths.
Oui, mais, donc, mais même c'est risqué, on va dire, de dire un pourcentage.
Oui, c'est très risqué. Et il faut vraiment s'en garder parce que il y a quelque chose qui nous échappe, c'est l'aléa judiciaire. C'est-à-dire qu'on peut avoir un dossier qu'on sait gagnant, et puis on est débouté en première instance. Et c'est pour ça qu'il y a l'appel, d'ailleurs. Puis la cassation, je vais y venir. Parce qu'il y a une notion... Le jugement, ce n'est pas nous qui le rendons. Et nous, on a une version qui est partielle. Donc parfois, quand on lance une procédure, c'est avec les éléments que l'on a.
Bien
et
sûr.
On va découvrir les éléments adverses en
bien
cours
sûr.
De procédure, que parfois notre client a de toute bonne foi ignoré.
Aussi.
Mais ça rend le débat beaucoup moins
oui,
manichéen.
Et, oui, et du coup, vous êtes moins dans le pourcentage positif pour votre client.
Voilà,
et
voilà. Oui. Donc, on lance alors, la première chose avant de lancer le procès, bien sûr, la procédure, c'est de tenter une démarche amiable.
Bien sûr.
Bon, comme je le dis assez souvent à mes clients, pour moi, un bon dossier, c'est un dossier qui est terminé. C'est-à-dire que...
Et que tous les recours avant le procès sont...
Oui, et c'est surtout de ne pas traîner un dossier pendant des années. Le cabinet n'a pas cet intérêt-là. Et je pense partager ce sentiment avec mes confrères. On est content quand un dossier est terminé et que le client est satisfait de ne pas avoir, de ne pas s'être épuisé dans des années de procédure. Donc si on peut privilégier une transaction, on le fait. Après, bien sûr, il faut qu'elle soit équitable.
Oui,
voilà.
Pas rapide et non qualitative. Après, on comprend très bien.
Voilà.
Il faut le juste milieu.
Mais parfois, j'essaie effectivement d'amener, lorsque l'enjeu le justifie, d'amener mes clients à privilégier cette voie amiable. Alors, il y a l'humain, il y a les petites rancœurs.
Oui,
qui
on
font
a envie d'aller jusqu'au bout et de dire j'ai gagné.
Voilà. Mais parfois, quand on expose justement ben, le poids que ça va représenter sur tous ces aspects financiers, temporels et mentaux, alors ben, le justiciable peut engager une discussion. Bon, ça arrive. Si ça n'arrive pas, bon, on refuse de transiger. Eh bien, dans ce cas-là, on saisit le juge qui est compétent. Et puis après, en fonction de la juridiction, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails.
Non, mais
on a un calendrier de procédure. Et puis, c'est comme un match de tennis.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que chaque partie fait valoir ses arguments et ses pièces. Hein,
bien sûr, la conviction.
Exactement. Et on se renvoie donc nos arguments, on y répond. Et à partir du moment où tout le monde est en état, ça veut dire quoi? Pas dire qu'on est d'accord, mais on est prêt. Voilà, on est prêt.
J'ai tous ces éléments sur la table.
Tout à fait. Alors, on le fait savoir au tribunal et le tribunal donne une date pour la plaidoirie. Voilà.
D'accord.
Comment ça se passe? Et si on reçoit une décision qui ne nous convient pas,
et qu'on fait appel.
Voilà, on fait appel si on estime que l'appel, bien sûr, est opportun.
Bien sûr. Parce
voilà.
qu'aussi, il faut voir ça aussi, de savoir si c'est nécessaire ou pas, ou encore juste pour perdre du temps, parce qu'il y a tellement de choses et on pourra en parler mille ans sur ça. Mais après, le dernier recours, c'est quoi? C'est la cassation, Maître Lendo?
Oui, alors déjà, il y a l'appel. Donc ça, c'est la première voie de recours. On peut avoir gain de cause, mais on peut avoir gain de cause partiellement. Donc
d'accord.
C'est là aussi où il faut juger l'opportunité d'aller en appel. C'est-à-dire qu'on a pas vraiment gagné, on n'a pas vraiment perdu. Donc c'est bon, voilà, c'est ce qui est le plus compliqué, on va dire, à déterminer dans l'opportunité de faire appel ou pas. Donc si on fait appel, on recommence le débat. On va critiquer le jugement dans sa motivation, mais on recommence le débat dans les faits, dans le droit. Par contre, la Cour de cassation, lorsqu'on la saisit, on demande à cette juridiction de juger si les juges du fond, donc les juges d'appel, ont fait une bonne application du droit. On ne revient pas véritablement sur les faits. C'est un débat qui est beaucoup plus technique.
D'accord, oui, ça n'a plus rien à voir, on dirait, vraiment, quand on est en cassation. Je veux dire, c'est quoi, en fait, comment on pourrait dire, c'est, admettons, j'ai ma branche, toujours, on garde ma branche, j'ai pas eu gain de cause, j'ai fait appel. Appel, ça n'a pas abouti encore en ma faveur. La branche du voisin est toujours en train de m'embêter. Je peux aller en cassation? Et là, comment ça se passe, en fait?
Alors, pour aller en cassation, première chose, il faut passer par un avocat spécialisé dans les procédures de cassation. Et l'idée, ça va être que le débat, ça va pas être de dire est-ce que la branche était là ou là, c'est est-ce que le juge, lorsqu'il a rendu sa décision, voilà, est-ce qu'il a motivé cette décision en répondant à ce
presque en mettrait quoi? On mettrait presque en doute, pas en doute, mais en fait la bonne
application du droit.
D'accord.
Tout simplement.
Est-ce qu'il a bien fait, en fait,
voilà. Est-ce qu'il n'y a pas eu une omission de répondre à telle ou telle argumentation? Est-ce que il n'a pas omis une des conditions pour caractériser telle ou telle...
Après, est-ce qu'on reprend tout le process, en fait, et on se détermine bien si tout a été bien appliqué, etc. D'accord.
Voilà.
C'est ça, en fait. Et là, les personnes qui sont compétentes à la cassation, en fait, regardent le travail du juge, en quelque sorte. Et les arguments.
Effectivement.
Et là, rendront une décision à ce moment-là, qui, elle, sera définitive.
Alors, là encore, il y a une petite subtilité. Il peut y avoir une décision de cassation, donc qui vient casser la décision, et qui peut renvoyer à une autre cour d'appel pour qu'elle reprenne le dossier. Voilà. Mais encore une fois, ça peut ne concerner qu'une partie infime du dossier, mais qui peut être la plus importante
aussi
dans l'enjeu.
Bon, là, on est vraiment allé dans les aspects techniques, mais c'était un petit peu pour montrer tout le process, d'une mise en avant d'une démarche, d'un procès, et de bien plus, là, on voyait. Alors, après, pour vous, je vais un peu vous titiller, j'ai envie, Maître Lindo. Parfois, je vais faire l'avocat du diable, moi, en revanche. C'est vrai que parfois, on se dit, oui... les avocats, ce sont des voleurs de sous, ils mettent des honoraires et ils font durer. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est ça que j'apprécie, vous disiez on n'est pas là pour faire durer. Et parfois on entend, vous avez sûrement entendu ce que je suis en train de vous dire, ça vous est tombé pas de 10 étages, qu'on entend, voilà, oui, mais à chaque fois, je comprends pas, il faut toujours que je donne des sous à mon avocat, et ça renvoie, et ça dure 3 ans, 10 ans presque, et je dois toujours donner des sous parce que, voilà, et ça coûte parfois des sommes astronomiques à nos contribuables. Donc, qu'est-ce que vous avez à répondre à ce genre de... Pas d'accusation, je ne suis pas en train de vous accuser, c'est pas moi. Mais c'est vrai que c'est compliqué, parfois, maître, d'avoir une bonne image de ce métier aussi. Il y en a parfois qui la ternissent, malheureusement.
Et oui. Alors, c'est comme dans toutes les professions. Hein,
bien sûr, on est bien d'accord.
Dans tous les cas, on a des personnes qui font preuve de probité dans leur exercice et d'autres moins. Et c'est comme tout, on va se retenir... Le négatif,
toujours.
Et puis le positif, il n'existe
beaucoup
pas.
Beaucoup moins, hein, en tout cas. Bon.
Donc, oui, bien sûr que ce type de réflexion, j'ai pu en entendre parler, notamment quand je prends la suite d'un confrère dans un dossier, ce qui arrive, hein, ben, les gens sont libres de changer d'avocat en cours de procédure. Oui, mais bon, voilà, moi j'ai beaucoup payé, blablabla. Bien, alors dans ce cas-là, on essaie de comprendre, est-ce qu'il y avait une convention d'honoraires à la base? Donc la première chose à faire, c'est de lire la convention d'honoraires que l'on reçoit. Si on ne la comprend pas, il faut poser la question à son avocat.
Et des fois, on ne la voit pas, cette convention, parce que parfois, on le fait oralement, Maître Lindo, parce que des fois, moi j'ai déjà vu ce truc-là, je ne cite pas de nom, on n'est pas là pour accuser, mais c'est vrai que parfois, ça se fait, voilà, ça me coûtera combien l'affaire? Oh, c'est à peu près 2000 euros. Voilà. Mais il n'y a rien de marqué. Et en fait, c'est là où les honoraires, elles s'accumulent. Et là, déjà, c'est ce qu'il ne faut pas faire quelque part. Il faut déjà qu'il y ait quelque chose d'acté.
Ah oui, bah c'est
oui, mais c'est un bon conseil quand même qu'on peut donner. Parce que des fois, les gens, ils sont perdus. Moi je si je ne le sais pas, par exemple, ça m'aide. Moi, je vais aller à votre cabinet. Vous me dites, voilà, ça coûte à peu près 2000 euros. Bon, ok, ça va. Même si ce n'est pas écrit, je retiens la somme que vous m'avez dit. Je ne savais pas qu'il fallait signer.
J'entends. Alors bon, on voit de tout, encore une fois, mais je pars du principe que moi, pour éviter les difficultés d'ordre financier avec mes clients, donc je fais signer, bien sûr, des conventions d'honoraires. Bon, il est recommandé de faire signer ce type de contrat. Pourquoi ? On est nous-mêmes auxiliaires de justice et on va venir après demander au juge d'interpréter les contrats de nos clients. Donc autant que les nôtres soient bien ficelés également.
Oui, et bien clair.
Voilà. Oui, donc il faut effectivement qu'il y ait un écrit qui vienne décrire la prestation qui est requise par le client et donc la traduire financièrement. La personne s'engage et en pleine connaissance de cause, elle sait à peu près combien ça va lui coûter. Et après, il y a des procédures dont effectivement on ne sait pas véritablement.
Ben là, on disait par exemple dans la branche, par exemple, je faisais un procès.
Oui.
Par exemple, dans l'honoraire que vous avez marqué sur votre convention, j'imagine qu'il n'y a pas l'appel.
Non, pas du tout.
Ce sont des choses en plus. Donc, par exemple, on va dire, je dis n'importe quoi en honoraire, hein, je suis peut-être larguée complètement, mais par exemple, je dis 1 500 € pour ma branche, voilà, en frais d'avocat, en frais de justice. Donc là, c'est une convention pour le procès qui va avoir lieu pour 1 500 €. Ça ne va pas dans mon sens. On veut faire appel, on fait une autre convention.
Une autre convention.
Voilà. Oui, mais il faut que ça soit. Ça paraît simple pour vous, Maître Lindo, je vous promets. Mais c'est pas forcément la chose qui se passe le plus souvent. Et parfois, nos auditeurs, en étant prévenus, c'est pas pour les mettre en méfiance du tout, mais c'est pour les mettre dans le bon procédé, plutôt, excusez-moi, des choses, comment elles se déroulent. Et au moins, ça se passe bien. On a une super bonne relation avec son avocat.
Eh ben oui, ça, c'est un peu la base. C'est-à-dire que c'est une relation de confiance.
Et oui.
Et s'il y a la moindre défiance vis-à-vis de son conseil, c'est qu'à un moment, il faut changer de conseil. Ça peut être l'inverse. Hein. L'avocat peut à un moment
se sentir
mal à l'aise. Puis voilà, ne pas adhérer au comportement de son client. On n'est pas lié.
Ce sont
deux personnes qui ont un libre arbitre et soit on fait affaire entre guillemets, c'est un contrat. Alors bien sûr qu'il y a de l'humain, mais c'est une relation professionnelle qui a vocation à s'inscrire dans le temps. Donc autant éviter les discussions satellites et les crispations sur des thématiques telles que l'honoraire. Après bien sûr ça peut arriver et dans ce cas-là il faut en discuter.
Au plus c'est clair, au mieux c'est. Et quand on sait vraiment comment ça se passe, quand c'est mis, comme vous le mettez ici à l'antenne, c'est beaucoup mieux de dire, voilà, ça c'est pour une procédure. S'il venait en avoir une autre, c'est un rajout, etc., etc. Au moins, on sait et on arrive à anticiper un petit peu le temps, déjà, comme vous le disiez, parce que psychologiquement, c'est assez compliqué. Il faut le prendre en considération, le temps, le coût et l'humain aussi. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et aussi, moi, ce que je n'aime pas, c'est quand on vend déjà la peau de l'ours avant de l'avoir tué, dire « vous inquiétez pas, on va gagner ». Et ça, moi, personnellement, je déteste ce principe de fonctionnement chez certains avocats. Comme vous le disiez, il y a les bons, les mauvais. Mais de dire « voilà, je suis sûr à 100%, c'est dur de tenir un discours comme ça, de dire « Maître, vous le faites pas, j'espère, vous, sinon vous seriez pas là, je suis sûr. Mais voilà, on peut pas dire à un client qui serait le vôtre de dire, je vous garantis que vous allez gagner. Vous le faites ce discours.
Alors, et figurez-vous que ça a été l'une des choses les plus compliquées au début, à trouver la formule adaptée pour dire à la personne qu'en fait, on ne peut pas lui garantir qu'on aura gain de cause. Oui, on croit à son
qu'il y a de bonnes chances.
Voilà, pour telle et telle raison, il faut l'argumenter. On n'est pas là juste pour dire bêtement, ah oui, je suis d'accord avec vous. Non. voilà, on regarde, on fait une évaluation, bien sûr, de son dossier. On a des réflexes.
Et vous estimez les chances, bien sûr.
Voilà, on l'estime en fonction de ce qu'on a vu par le passé, de nos connaissances.
Tout ce qu'on disait avant.
Mais toujours, et moi je le mets même par écrit, très souvent aussi, il y a toujours le fameux aléa judiciaire et surtout le fait que lorsqu'un dossier rentre au cabinet, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Et après, le reste, on profonce, le prend de front.
Hein. Eh oui, non, mais c'est pour ça, il ne faut pas vendre du rêve, il ne faut pas faire croire aux gens qui vont aller dans une procédure et être sûrs de gagner. Il faut voir le temps que ça va prendre, comme vous le disiez, il faut voir l'aspect psychologique, le financier et aussi les chances, comme vous le disiez, d'avoir gain de cause. Parce que parfois, il y en a qui s'obstinent dans ces procédures-là en se disant « mais non, je suis sûr que je vais... » Presque, ils font l'avocat à votre place. Et je pense que vous l'avez, ces genres de clients, non ?
Ça arrive, effectivement, des personnes qui viennent avec des textes de loi imprimés sur Légifrance. Bon, mais ça, c'est amusant. Et puis, ça fait bien sûr partie de la relation. Mais par contre, il ne faut pas croire, les personnes sont reconnaissantes quand on leur dit « stop ». Ça suffit.
Il faut le dire, il faut savoir le dire.
Voilà, il faut savoir le dire. Mais les justiciables ont aussi, bien sûr, sont des personnes qui sont animées de tas de choses qui vont les amener chez nous. Mais ils ont aussi, bien sûr, l'intelligence de comprendre qu'à un moment, leurs prétentions ne vont pas prospérer. Quand on leur explique. En fait, notre métier, à la base, c'est faire preuve de pédagogie.
Voilà. Oui.
Et ne pas leur sortir un discours pompeux en latin, oui, on va gagner, on va perdre. Non, il faut leur expliquer pour qu'ils prennent leurs décisions en toute connaissance de cause.
Et oui, et les éventualités.
Là, on peut y aller.
Et les éventualités, parce que si justement ils n'ont pas gain de cause, parfois ils tombent de très haut et de dire mais comment maître, j'étais tellement certain que j'allais gagner, que oui, ça peut être un choc parfois, j'imagine. C'est là aussi où vous devez avoir cette forme de pédagogie. Et puis j'ai envie de dire, vous rentrez dans une confiance, vous rentrez presque dans la famille de ces personnes-là, et puis vous avez aussi, j'imagine, cette obligation de confidentialité. Une fois qu'on rentre dans votre bureau, j'imagine bien que voilà, tout ce qui va être dit au sein de ce bureau n'en sortira pas.
Bien sûr. Bah, c'est la base de notre métier, le secret professionnel. Effectivement, ce que nous confie le client reste dans le secret de notre cabinet. Nous, ça nous permet de le connaître, parce qu'il y a des personnes qui, parfois, peuvent se dire « je ne vais pas tout lui dire, parce qu'il me défendra mieux ». Mais non, en fait, pas du tout.
Non,
parce que déjà, on a un petit flair au bout d'un moment, donc il y a des choses qu'on arrive à percevoir, d'une part, et ce qui fait qu'on va du coup appréhender le discours avec beaucoup plus de relativité. Donc non, quand on est avec son avocat, on peut tout lui confier. On peut tout lui confier.
Même le pire.
Même le pire, oui, ça fait partie effectivement de notre charge. On prend le vécu des gens et puis on voit avec ce vécu quelle est la meilleure façon de les assister.
Voilà. Et vous n'êtes pas là pour les juger, justement.
Non, voilà. Au contraire. Bien sûr, on n'est pas là pour les juger. Par contre, on est là pour les mettre en garde. Alors, sans juger, on peut tout à fait dire... Alors là, monsieur, ce que vous m'exposez, ce que vous me racontez, ça vous expose à telle ou telle sanction. Il faut s'arrêter. Voilà. Donc, nous-mêmes, on a des obligations déontologiques. Hein, quand on nous consulte pour un motif pas très catholique, entre guillemets, nous-mêmes, on doit mettre une barrière en disant « Mais non, là, vous me demandez de faire quelque chose qui n'est pas... »
Vous avez des jobs, sans rentrer dans une affaire particulière, mais on a pu vous demander quoi ? Des choses presque inimaginables ? Je vous prends au dépourvu, hein, rien n'est préparé, là.
J'ai eu quelques demandes un peu farfelues, mais ça relève plutôt de l'imaginaire. Ou un jour, on m'a demandé, oui, et si je vous donne un petit billet, vous pouvez aller parler à, je ne sais plus si c'était le préfet ou le procureur. J'ai dit, mais ça ne va pas du tout. Oh là là.
Ouais, bon, vraiment, bref. C'est arrivé qu'on vous demande des choses quand même.
Oui. Ça, et c'est arrivé aussi... qu'on instrumentalise notre profession pour parvenir à obtenir des documents avec des faux. Et là, en fait, c'est en prenant le dossier qu'on s'aperçoit que c'est un faux. Voilà. Et là, c'est très délicat parce qu'il faut dire au client, moi, je ne vous crois pas. Voilà. Je ne vous crois pas et vous m'instrumentalisez, donc stop. Et voilà, parce que sinon, nous-mêmes, on s'expose, bien sûr.
Voilà. Et vous mettez en avant des fausses pièces.
Oui, voilà. Donc, mais il faut s'en apercevoir. Mais en général, on s'aperçoit.
En tout cas, maître, c'est vrai qu'on a fait un beau tour de votre métier et qui aujourd'hui, vous l'exercez depuis combien de temps maintenant ?
Ça fait 12 ans.
12 ans. Voilà, 12 ans. On ne va pas dire votre âge, ça ne se fait pas de dire votre âge. Mais voilà, vous êtes jeune et ravissante et vous êtes ici sur ce plateau de Diva FM. On a la chance, franchement, de vous avoir désormais. Donc, chaque vendredi, vous serez avec nous. Et chaque semaine, on va aborder, comme on le disait en introduction, un thème. Ça va être de tout, hein. Ça pourra être des divorces, des successions, ça pourra être les conflits de voisinage, ça peut être aussi tout ce qui se passe, les radars, les excès de vitesse. Il y en a tellement, je crois qu'on ne manquera pas de sujet.
Je crois également.
Vous êtes d'accord ?
Oui.
En tout cas, voilà, chaque vendredi, vous nous exposerez un thème. Et on est à l'écoute aussi de nos auditeurs, s'ils le souhaitent. On peut aussi avoir leurs recommandations. S'ils ont des demandes à faire, ils peuvent le faire sur nos réseaux sociaux, via Facebook, sur Diva FM. Et Maître Céline Lendo se mettra à votre disposition pour aborder, par exemple, un thème qui vous préoccupe avec grand plaisir. Mais ce que nous voulons savoir aussi, Maître, c'est où on peut vous retrouver. Et à vous de prendre note des coordonnées de Maître Céline Lendo que vous allez pouvoir retrouver dans son cabinet entouré d'autres professionnels comme elle. Je vous en prie, Céline.
Oui, et bien moi, mon cabinet est situé sur le Prado, 22 avenue du Prado. Vous pouvez nous contacter en vous connectant sur notre site internet www.lendo-avocat.fr. On est également joignable au 04 86 01 28 70. Et que vous soyez italophone ou francophone, vous trouverez toujours le bon interlocuteur parce que l'équipe est à votre disposition.
Exactement. Céline Lendo sur les ondes de Diva FM 101.8 où le droit s'exprime avec passion. C'est son slogan. Vous la retrouverez donc chaque vendredi. Maître Céline Lendo, on se dit à vendredi prochain avec un nouveau thème à aborder. Ensemble, nous le ferons avec donc passion. Vous êtes d'accord ?
Ah oui, avec grand plaisir.
À vendredi prochain, Maître.
Au revoir. À vendredi.
Diva FM.